Bien, nous abordons donc la deuxième partie de cette réunion avec les questions de la table. Et donc, je donne la parole à Jean-Pierre Le Goff, les deux premières.
Oui, enfin, avant de poser la question, je voudrais juste indiquer rapidement l'effet que m'a fait le livre de Marcel Gaucher. Bon, moi, c'est vrai que j'avais été intéressé par les précédents tomes, mais celui-là, m'a beaucoup impressionné. Bon, je crois que ça a été un peu dit par René tout à l'heure. D'une part, par la somme de connaissances historiques qu'il met en jeu. Enfin, ça m'a beaucoup frappé. Et je dirais plus que ça, c'est-à-dire la capacité à ressusciter des débats et à les faire vivre de l'intérieur. C'est surtout ça que j'ai trouvé, par exemple, j'étais très frappé dans le livre par le débat sur Bernstein et le bolchevisme, par exemple, ou sur tout ce qui touche aux socialistes. Je disais que, par exemple, les socialistes français devraient lire cette partie, parce qu'il y a des choses, on s'aperçoit que beaucoup de choses avaient été dites bien avant. Beaucoup de débats aujourd'hui trouvent à s'éclairer de façon très étonnante par rapport à ce moment-là. Or, ce qui est assez frappant aussi, c'est qu'on voit qu'il y a eu des moments de l'histoire où il y avait des possibles d'ouverts et qui se sont refermés. Ça m'a beaucoup frappé par des séquences, dans des séquences. Alors, je ne vais pas reprendre, même la nouvelle configuration historique de la guerre de 14, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses décrites dessus, d'une certaine façon, mais que la représentation d'ensemble qui en est donnée est assez saisissante. Par exemple, moi j'ai été beaucoup frappé aussi par le schème du sacrifice, enfin on n'a pas le temps d'en discuter dans le détail, mais qui me paraît tout à fait, qui est assez fascinant d'ailleurs. Et puis je dirais aussi cette période 45-75 où, je dirais, il y a chez Marcel Gaucher, qui fait ressurgir des potentialités qui ont existé à un moment donné. Et qui d'ailleurs, paradoxalement, se sont beaucoup refermés. Il y a eu beaucoup de possibilités ouvertes qui se sont fermées. Moi, c'est l'effet que ça me fait beaucoup. Alors, je dois dire que, comme beaucoup, quand j'ai fini le livre, j'ai un peu le souffle coupé. C'est-à-dire que c'est quand même assez magistral, pas au sens de... Il y a beaucoup de choses. Alors, comment, je me suis posé la question, comment arriver à prendre poser une question de l'intérieur. Alors, mes questions vont d'abord être pas directement sur le telle ou telle analyse, conjoncture historique, mais sur la problématique, parce que elle concerne d'abord le cadre global de l'interprétation, c'est-à-dire la conception de l'histoire qui est sous-jacente et qui réordonne l'ensemble des matériaux à travers une structure. C'est cette structure d'ensemble que je voudrais interroger. Et la deuxième question est très simple, c'est sur la notion de religion séculière. Alors, sur la première question, pour faire très vite, je ne vais pas reprendre ce que dit Hannah Arendt. Il y a une formule qui, moi, m'a beaucoup frappé, tu la connais. C'est, d'une certaine façon, quand on fait de l'histoire, eh bien, on est nécessairement prophète du passé. C'est-à-dire, comme on est amené à retourner en arrière, on ordonne, d'une certaine façon, l'histoire qui n'était au départ, pas ordonné de cette façon-là. Donc, il y a tout ce travail d'interprétation. Et d'une certaine façon, je pense que tout travail qui s'intéresse à l'histoire, c'est incontournable. On ne peut pas échapper à être, d'une certaine façon, le prophète du passé. Alors, cela étant posé, le problème qui me semble difficile, d'ailleurs, je ne crois pas qu'on va le régler comme ça en deux mots, mais j'allais dire, j'en profite, puisque Marcel Gaucher est là pour poser la question, c'est le rapport entre une forme de logique interne à l'histoire, qu'on est amené, une économie profonde, pour reprendre tes termes, qu'on est amené à dégager à partir du matériau, et la part de la contingence, c'est-à-dire la part du possible, de l'inédit, et qui ne va pas forcément dans le sens escompté. Alors j'ai bien compris d'ailleurs que c'est là où c'est frappant. Dans ton interprétation, la guerre de 14 n'aurait pas eu la guerre de 14, il n'y aurait pas eu le totalitarisme. Oui. Mais il y aurait eu quand même le mouvement de dynamique de la démocratie et de sortie de la religion, qu'aurait pris d'autres formes, mais qui néanmoins aurait continué à se dérouler. Alors c'est là-dessus que je voudrais t'interroger, parce que, enfin, c'est un peu l'hypothèse de base, je crois qu'elle est incontournable et qu'elle contribue à éclairer à partir de cette hypothèse fondamentale des éléments qui n'étaient pas perçus. Je pense que du point de vue de l'éclairage, à partir de cette hypothèse-là, on voit des choses ressurgir. Mais d'un autre côté, quand tu dis, enfin là c'est dans un entretien là, que j'ai retrouvé, la démocratie est un mouvement continu dont la nature est de se déployer sans cesse à travers de nouveaux problèmes et de nouvelles solutions. Et je cite, ce processus de la démocratie est intimement lié à la sortie de la religion. C'est-à-dire, on a une vision de l'histoire où partant de l'emprise religieuse, on a un dégagement progressif, d'ailleurs avec plusieurs étapes. Et 45-75, d'une certaine façon, c'est l'aboutissement comme un accouchement, enfin d'une gestation très longue de plusieurs siècles qui amène ça. Alors, tu parles d'ailleurs, j'ai trouvé, il y a presque... Est-ce qu'il n'y a pas une instance cachée dans l'histoire, une espèce de trame invisible, d'économie profonde, qui est la structure religieuse et son devenir ? Et on a toujours finalement l'impression, et c'est un peu, c'est pas d'aujourd'hui que je pose la question, que la démocratie finalement, il y a toujours des crises de croissance. Mais les crises de croissance, la démocratie finit toujours par retomber sur ses pieds. Mais pourquoi ? Voilà. Pourquoi et qu'est-ce qui fait que ça serait, je dirais pas nécessairement ainsi, mais c'est ça qui me pose problème. Donc voilà un peu ma première question, c'est-à-dire que en quoi ça se démarque, ton interprétation, d'une philosophie de l'histoire, c'est-à-dire d'un principe qui ou d'une structure qui est toujours à l'œuvre et qui finit par, à travers des obstacles, des crises, d'ailleurs il y a une nouvelle crise à partir de 75, c'est pour ça que moi, j'attends avec impatience le dernier tome, mais on sait malgré tout que par cette crise, il y a une espèce... Alors est-ce que c'est un pari optimiste ? Je ne dirais pas ça, puisqu'en même temps il reconnaît qu'il y a une nouvelle crise. Mais bon, globalement, il y a un mouvement démocratique qui marche un peu, pas tout seul, mais enfin c'est un principe. Alors voilà. Et d'autre part, pour expliciter ce que je veux dire, tu as une formule que je trouve assez paradoxale. Il n'y a que l'intelligence de ce qui est devenu, de ce qu'est devenue la démocratie qui puisse nous procurer le sens de ce qu'elle est susceptible de devenir. Et là aussi ma question, mais pourquoi ? Après tout, pourquoi on ne pourrait pas sortir de la démocratie ? Pourquoi la démocratie serait-elle, je ne dirais pas la formule définitive, il n'y a pas de fin de l'histoire, mais la dynamique de l'ensemble. Alors ça, c'est ma première question. Et puis, j'en arrive une seconde sur la religion séculière, la notion religion séculière. Je suppose qu'on t'a déjà posé la question. C'est sur la notion de Raymond Aron, c'est-à-dire la différence avec Raymond Aron qui amène la notion de religion séculière, je crois que c'était en 44, enfin c'est ce qu'il dit, qui parle effectivement, ou 38, je ne sais plus, de religion séculière avec l'avènement des partis et des États totalitaires. D'ailleurs, il souligne notamment comment le communisme s'est développé à une époque où les églises, alors c'est la notion d'église chez lui qui est très forte par rapport, on en causera, que la prophétie marxiste est conforme au schéma typique du prophétisme judéo-chrétien, que le parti se rapproche d'une église, enfin il y a beaucoup de traits qui sont soulignés, et en même temps, bon je vois la différence avec toi, mais j'aimerais quand même que tu reviennes dessus, dans la mesure où tu l'as fait, il me semble, tu l'as fait jouer comme schème général de l'histoire, alors que Raymond Aron l'apprend de façon beaucoup plus parcellaire, d'une certaine façon particulière à propos du parti. Hein. Et puis d'autre part, tu fais jouer cette question de religion séculière, précisément, à l'intérieur de la modernité individualiste. C'est ça qui fait la... Enfin, c'est comme ça, mais j'aimerais que tu reviennes là-dessus. Et enfin, terminant sur cette religion séculière... C'est la question du paradoxe. C'est vrai que la notion elle-même, comme tu l'as souligné, peut paraître très paradoxale. Une religion séculière qui est en même temps religion anti-religieuse dans le discours qu'elle tient est très paradoxale. Alors, que fait-on ? Est-ce que le fait de se réclamer du scientisme, du positivisme, de la marche historique, c'est-à-dire de jouer tout dans l'immanence, n'est qu'un jeu d'ombre ? C'est-à-dire n'est que... finalement, un effet qui masque l'essentiel, ou est-ce que le fait de raisonner désormais de cette façon marque un nouveau phénomène qui, d'une certaine façon, n'est pas ramenable à une religion séculière ? Je vais prendre le fort sur cette que tu connais bien, mais sur cette catégorie, c'est-à-dire qu'on passe, si je prends le statut du discours, pour prendre ces formulations, le statut du discours, on a d'un côté dans le discours religieux un fondement qui est évidemment dans l'hétéronomie, qui est transcendant au social, alors que l'idéologie marque un renversement où le fondement du discours et de ce qui est dit s'inscrit dans l'immanence, et notamment avec le communisme, dans l'immanence du devenir historique. Mais est-ce que le fait de ce renversement, même si je vois très bien qu'il reste, comme tu le soulignes magistralement, des restes de forme religieuse ne nous amène pas à un phénomène nouveau. C'est-à-dire que certes, est-ce qu'on ne pourrait pas renverser la problématique en disant finalement la religion, ce sont des restes où on reprenne la forme et l'essentiel n'est déjà plus là. C'est-à-dire l'essentiel se joue désormais dans un fondement qui n'est plus de l'ordre du transcendant, mais dans l'ordre de l'immanence. Le point de vue de certitude, pour reprendre le fort, a changé de point d'accroche, d'une certaine façon. Et le fait qu'il ait changé de point d'accroche change le phénomène. Voilà. Alors, voilà un peu les questions, je ne sais pas si on aura le temps de... Mais c'est les questions de fond, au-delà même des éléments historiques. Je pense qu'on reviendra sur les éléments historiques.
Je vais essayer de répondre brièvement. Ça pourrait être interminable, parce qu'il faut remonter très loin pour répondre complètement à la question, mais j'essaierai de dégager l'essentiel. Alors, partons de ce qui me paraît crucial. C'est la différence entre la perspective que je propose et une philosophie de l'histoire. Une philosophie de l'histoire, c'est un discours sur l'ensemble du devenir humain. C'est une philosophie de l'histoire, c'est la totalisation du devenir. Ça n'a de sens que comme ça, qui est à la fois une théorie du commencement et de la fin, et qui est une théorie du passage. Moi, je ne parle de rien de tel. Et tout ce que je peux dire, par exemple, sur la démocratie, s'inscrit à l'intérieur d'une séquence temporelle bien particulière dont je souligne la contingence. La contingence européenne, d'abord. Ça commence d'une manière parfaitement peu prévisible autour de l'an 1000, en Europe de l'Ouest, quelques cantons, c'est tout petit. Et puis, ça prend une forme à nouveau changée, qui permet de parler de modernité à proprement parler, au début du XVIe siècle, en gros. Mais cette séquence globale elle-même ne représente en rien un aboutissement de l'histoire universelle, ni une quelconque nécessité dans ce tableau de l'histoire universelle. Universel. Ce qui est justement tout à fait saisissant, c'est le caractère singulier de cette bifurcation occidentale qui va passer de l'autre côté de l'Atlantique avec les États-Unis et qui aujourd'hui en passe de conquérir la planète. Ça, c'est une autre question. Mais le point de départ, lui, est parfaitement contingent. Mais ce qui me frappe, depuis que ce processus est à l'ordre du jour, d'abord de manière implicite pendant 5 siècles, 1500 en gros, puis de manière explicite depuis 1500, ce qui me frappe, c'est l'extraordinaire vigueur et continuité de ce processus. Il représente un possible particulier dans l'histoire humaine. N'empêche que depuis lors, il se poursuit d'une manière absolument remarquable. Remarquablement continue. Ça ne veut pas dire que ça va continuer. Et ça ne veut pas dire que c'est le dernier mot de l'histoire universelle. Moi, je ne dis pas, j'ai la clé de l'histoire universelle. Voilà vers quoi elle allait depuis toujours et ce qui sera son dernier mot. Ça, je n'en sais rien et je ne me prononce pas là-dessus. L'étonnant, mais c'est un étonnement, c'est le fait que ce processus de sortie de la religion, qui est l'âme de la chose et qui se poursuit en gros depuis un millénaire en Occident, qui a gagné depuis lors d'autres terres, se poursuit d'une manière qui va contre tous les retours en arrière qu'on croit régulièrement observer ou toutes les interruptions. Mais, encore une fois, ni la nature de ce processus ne représente une universalité logique dans le tableau de l'histoire universelle, ni ne représente un dernier mot quelconque. Ce que j'observe, c'est la puissance de sa dynamique, qui peut très bien s'effacer. À beaucoup d'égards, on a l'impression que l'Europe, qui a été le support de ce processus, qui est aujourd'hui la zone du monde où le processus de sortie de la religion a de très loin poussé ses extrémités peut parfaitement s'effacer de l'histoire et se trouver complètement marginalisé par une sorte d'implosion interne qui est le spectacle dont on a l'impression. Donc, moi, ça ne me paraît pas inimaginable. Ça n'empêche pas que ce processus de sortie de la religion a fait apparaître un possible humain, une certaine configuration du monde humain social qui a une... qu'on peut reconstituer dans sa portée générale comme une version de l'organisation collective unique dans l'histoire. Rien n'y ressemble avant. Donc c'est en effet une bifurcation. Ce n'est pas du tout une sorte de prolongement nécessaire de ce qu'était depuis toujours le mouvement de l'histoire universelle et dont il faut toujours décrire la cohérence structurelle comme une certaine modalité de l'être ensemble qui s'est trouvée là et dont j'observe simplement la capacité à se développer dans le temps et à se poursuivre avec une efficacité incomparable, mais pas irrémédiable. Après tout, Hitler aurait pu gagner la guerre. Et on ne sait pas où... on serait aujourd'hui. On ne serait pas là pour en discuter, ça c'est certain. Ce qui s'est passé a un sens du point de vue du parcours, de ce parcours du déploiement de ce que j'appelle structuration autonome, qui est une invention historique tout à fait étonnante, à l'intérieur du tableau de l'histoire universelle, mais pas du tout une de ces actualisations nécessaires. Donc on est en permanence dans cette articulation du contingent événementiel, du contingent de la séquence elle-même dans sa signification globale. Il n'y a pas de nécessité à ce que l'humanité se déploie de cette façon. C'est une manière d'être très précise, advenue, et qui continue d'aller vers un déploiement plus complet, et ce depuis des siècles. C'est tout. Ça peut se refermer, ça peut à tout jamais n'être qu'un possible émerger à un moment donné et qui se trouve recouvert, mais il a une signification générale du point de vue des possibles humains. Donc c'est ça qu'il faut éclairer en même temps que la contingence. J'essaye, autrement dit, de sortir justement des impasses, des philosophies de l'histoire dont le procès n'est plus à faire. Alors, la question de la religion séculière. Alors, par rapport à Aaron, quand même une observation, Aaron a consacré un article à ce sujet. En fait, c'est dans les articles de la France libre pendant la guerre, c'est 43, hein, je crois. Et il n'y est jamais revenu. C'est quand même très remarquable. Sinon, il n'y est jamais. Il fait un cours sur le démocratie et totalitarisme, son fameux cours de la Sorbonne. Ça n'apparaît même pas. C'est absolument pas central pour lui dans l'interprétation des totalitarismes. C'est central dans son interprétation du rayonnement de l'idéologie communiste. C'est ça. Et donc, le marxisme comme opium du peuple. Appelons les choses par leur nom. Je veux dire, juste retour du berger à la bergère, c'est ça. Et justement, alors, sur le fond, pour bien marquer la différence des perspectives, primo, pour moi, religion séculière, ça ne s'applique pas qu'au communisme. Je veux dire, et pour une raison simple, on voit bien, en effet, depuis Marx, hein, si j'ose dire, dès l'époque, il y a eu beaucoup de gens pour remarquer le caractère prophético-eschatologique de son discours. Et ça s'est renforcé, et ça devient une banalité, en fait, dans les années 20-30, quand on observe à la fois le régime bolchévique, à propos de l'élément de foi, et très vite, alors toutes les histoires, la Sainte Russie, la Vieille Russie qui revient dans le régime bolchévique qui ne veut pas en connaître, etc. Mais là, on reste en quelque sorte à la surface des choses. et on reste dans l'espace du communisme, parce qu'on a un avenir qui est interprété d'une manière, à mes yeux, tout à fait superficielle, comme un salut. Parce que ça, c'est ça, dans la notion de religion séculière, la transposition terrestre du salut céleste. Ça me paraît le point très faible de la notion, parce que ce n'est pas du tout de salut qu'il s'agit dans le communisme. Je dirais d'ailleurs que le salut, il est individuel ou il n'est pas. Hein ? Salut collectif, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est une métaphore. Et ça ne permet absolument pas de rendre compte des autres idéologies séculières. Où est le salut dans l'hitlérisme ? On ne le voit pas beaucoup. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ce dont il s'agit dans ces expériences politiques, c'est de la forme du régime, du bon régime, du régime qui répond le mieux à ce qu'on peut espérer d'une collectivité humaine fonctionnelle selon des valeurs où le pouvoir du peuple est la catégorie centrale. Parce que c'est l'élément moderne de ces régimes, dans tous les cas. Moi, je crois qu'il faut justement cet emploi purement métaphorique du salut nous dissimule l'essentiel. Je dirais même que dans le cas du stalinisme, on voit bien, à un moment donné, ça va être quelque chose qui sera très fortement ressenti dans les gens qui s'intéressaient et le mouvement ouvrier plus largement, c'est en fait la prophétie future est supplantée par le régime présent. Ce que les gens aiment dans le stalinisme, c'est la Russie stalinienne, pas le communisme futur dont, en fin de compte, ils n'ont rien à secouer. Et c'est là où le régime est pris au piège de sa propre idéologie. Ce qui est bien dans l'Union soviétique, ce dont il faut faire un bilan positif, c'est sa forme actuelle, pas le régime futur vers lequel ce régime actuel est supposé être une transition. Les gens qui aiment le régime soviétique, ils l'aiment tel qu'il est, pas pour le communisme futur qu'il promet. Et c'est ça. Donc, comme dans le jargon de la tribu, le socialisme prend le pas sur le communisme. Sauf chez les poètes. Sauf chez les bardes de la bonne cause. Voilà. Et je crois que l'objet des religions séculières, c'est le régime actuellement existant et sa forme, qui retrouve à la fois un type de pouvoir, un type de lien communautaire entre les êtres, un type de hiérarchisation, l'important, l'accessoire, d'idéalisation de la vie collective au travers de l'idéologisation généralisée, c'est ça qui est l'objet de la religion séculière, et pas la perspective lointaine, prophétique, eschatologique, qui en effet peut séduire les intellectuels, apparemment. Mais le pire, c'est bien pire, c'est que je crois que c'était moins l'eschatologie marxiste qui plaisait aux intellectuels que le régime soviétique dans son aspect de puissance et de restauration d'un type de collectivité qui paraissait incroyablement supérieur aux démocraties bourgeoises ramollies. Donc je crois qu'il faut complètement déplacer la question de l'idéologie à la politique pour bien donner toute sa capacité opérationnelle à cette notion de religion séculière. Voilà le principal déplacement d'accent par rapport à la perspective d'Aron.
Ça va ? On continue ? On garde...
Non, mais il y avait juste le troisième volet.
Oui, le troisième volet, c'est-à-dire la nouveauté. Voilà. Mais évidemment.
Oui, mais est-ce que c'est l'idéologie ou c'est...
Ça n'est ni de l'un ni de l'autre. C'est un objet absolument nouveau, ça c'est clair, mais un objet, c'est la religion séculière, je dirais, si tu veux, pour répondre simplement à ta question, les religions séculières, on peut les définir autrement comme une idéologie religieuse, c'est-à-dire un discours formellement idéologique, où le marxisme, où le fascisme, où le nazisme se présente comme des idéologies. Il n'y a rien, à première vue, de religieux là-dedans. Le contenu est idéologique, mais la structure, la forme est religieuse. Donc, on a un accouplement de contraire. Le, au travers, de, dans ce discours idéologique, passe un contenu qui, lui, emprunte inconsciemment, hein, je pense que c'est un point très important, sa substance, non pas à un discours religieux, c'est pas un problème de discours, mais c'est la structure de, du collectif qui est visé par cette idéologie qui est en cause. Et le contenu de la société visée est, lui, un contenu inconsciemment et structurellement religieux. Donc on a les deux.
Julien Maroche.
Oui, fin, en fait, j'hésite à organiser mes questions en deux ou trois. Ça revient à peu près au même. Sachant que c'est la première qui m'intéresse le plus fortement, c'est une question qui concerne d'abord l'État. La suivante concernerait plutôt la nation et enfin la démocratie. Sur l'État d'abord, la question générale que j'ai envie de vous poser, c'est quelle place attribue à l'État dans le totalitarisme et dans le totalitarisme tel que vous l'interprétez, à savoir comme religion séculière. Et la question adjacente à ce premier questionnement, c'est faut-il considérer le fascisme italien comme un phénomène authentiquement totalitaire ? Et ce point-là, précisément, fait intervenir le critère essentiel du parti et du parti-État. Et vous avez justement une distinction qui me semble judicieuse, mais je ne sais pas quelle conclusion en tirer du point de vue de l'État. La distinction entre parti-État et État-parti. Le parti-État qui caractériserait les deux grands totalitarismes qu'on a coutume d'identifier, et l'État-parti qui serait le concept propre au fascisme italien. Parce qu'en rigueur de terme, si on se déplace et si on sort du cas totalitaire pour considérer l'État, on pourrait tout à fait dire que l'État est absent du dispositif totalitaire. On pourrait alors avoir une conception de l'État qui reviendrait finalement aux textes fondamentaux, aux grands penseurs de l'État, je pense à Jean Bodin, à Thomas Hobbes, et on définirait alors l'État comme l'institution politique de la modernité libérale. En quoi, finalement, dans le totalitarisme, il n'y aurait pas quelque chose comme une destruction de ce dispositif étatique propre à la modernité libérale ? Je pense notamment à toutes les grandes descriptions données par les premiers interprètes du totalitarisme, et notamment Franz Neumann, chez lequel Hannah Arendt a beaucoup puisé, qui parlait de chaos institutionnel. Si on définit l'État comme une institution, peut-être l'institution des institutions, en quoi le chaos institutionnel qui caractérise le totalitarisme serait justiciable d'une analyse à travers le concept d'État ? Et c'est dans cette perspective, finalement, que la question du fascisme italien, selon moi, se pose. Vous le dites d'ailleurs avec vos mots, il reste encore un peu d'État dans le fascisme italien, ce qui justifierait cette distinction entre parti-État et État-parti, où l'État, finalement, aurait encore une place suréminente dans le dispositif social. Mais alors, faut-il considérer le cas italien, le fascisme italien, comme un totalitarisme? Je sais bien que vous ne faites pas nécessairement de ce critère de l'État-parti ou du parti-État le critère central de définition, mais j'ai envie de vous interroger donc, par cette porte-là. Et si l'on veut d'ailleurs mettre sur le même plan à la fois le nazisme, le stalinisme ou le bolchevisme plus généralement et le fascisme italien, finalement, est-ce qu'on n'est pas dupe du discours des acteurs totalitaires sur eux-mêmes? Ce n'est pas parce que le Duce Mussolini revendiquait le mot d'ordre totalitaire qu'il faut prendre pour argent comptant ce qu'il disait. Je veux l'État totalitaire, certes, mais est-ce que finalement on doit reprendre ce concept du discours des acteurs en lui rendant la politesse, en le dignifiant dans une analyse du phénomène totalitaire? Et en l'occurrence, je pense à Hannah Arendt qui pourtant ne pense pas l'État et qui continue à parler d'État totalitaire, qui justement a posé peut-être l'analyse inaugurale du totalitarisme qui permet de comprendre en quoi le fascisme n'est pas totalement justiciable du concept de totalitarisme. Je cite notamment le propos d'Arendt dans le tome 2 des origines du totalitarisme, Mussolini lui-même, qui aimait tant l'expression d'État totalitaire, n'essaya pas d'établir un régime complètement totalitaire et se contenta de la dictature et du parti unique. Et sur l'Italie, toujours, vous écrivez dans votre ouvrage, l'État fasciste ne se contente pas de dominer la société à l'instar des pouvoirs autoritaires, il entend la pénétrer et l'embrasser. En quoi son dessein est bel et bien totalitaire, il se préoccupe de lier politiquement les masses à l'État, ce sera le rôle du parti, précisément. C'est donc la question, l'État-parti est-il encore un État ? C'est peut-être d'ailleurs jusqu'à l'expression d'État totalitaire qui pose problème et qu'il faudrait s'abstenir d'utiliser. Je pense ici à ce que disait Julien Freund, qui disait qu'il y avait une captation par un parti de l'État, mais que en rigueur de terme, État totalitaire, c'était accoler deux mots que la logique sépare. Peut-être ici, d'ailleurs, on devrait prendre au sérieux, pour le coup, le discours des nazis sur eux-mêmes, qui revendiquaient un discours ou une idéologie statophobique. Et Carl Schmitt, quelqu'un qui avoisinait justement avec cette idéologie nazie, a écrit dès 1933, peu après l'arrivée de Hitler au pouvoir, le 30 janvier 1933, écrit-il, on peut dire que Hegel est mort. Hegel, le grand penseur de l'État, celui qui a justement systématisé le concept d'État, serait mort avec le nazisme. Donc ça, c'est ma première série de questions sur l'État et la question adjacente sur le fascisme. La deuxième série de questions donc, a trait à la nation. Et là, peut-être que la nation pose moins la question du fascisme que la question du nazisme en tant que tel. Mon interrogation pourrait se formuler de la manière suivante. Le phénomène national dans son ensemble, c'est-à-dire l'État-nation comme figure de la modernité proprement européenne, du continent européen, cette figure de l'État-nation, ce phénomène national, est-il justiciable du concept d'impérialisme qui, dans les pages que vous consacrez au nazisme, se situerait au fondement, serait l'une des matrices du national-socialisme. Et là encore, c'est le même raisonnement que j'applique. Autant Mussolini dit « je veux l'État totalitaire, mais on n'est pas obligé de le prendre au sérieux », Hitler est bien sûr à la tête d'un parti qui s'intitule Parti national-socialisme, mais qu'est-ce qu'il y a de national ou de nationaliste dans le programme hitlérien ? N'est-ce pas encore ici prendre trop au sérieux le discours des acteurs totalitaires sur eux-mêmes, alors que précisément ils sont dans une idéologie et que l'analyser en tant qu'observateur, ça supposerait peut-être de refroidir ou de décontaminer nos concepts. Ça veut dire que le concept de nationalisme radical peut poser problème, dans le sens où il indiquerait une simple différence de degré, là où on pourrait voir, où on serait peut-être justifié à voir, une différence d'essence. En quoi il y aurait une gradation qui irait du nationalisme, et on sait qu'aujourd'hui, on déploie des trésors d'énergie pour dire « je suis patriote, je ne suis pas nationaliste, je ne vois toujours pas la différence », une gradation qui irait du nationalisme bontain des États-nations au nationalisme radical, sans que le saut qualitatif soit véritablement bien identifié. Et d'ailleurs, peut-être que si on identifie ce dévoiement impérialiste de l'État-nation par le régime nazi, on comprend un peu mieux quel était le schéma mental des penseurs de l'Europe moderne, et notamment leur disqualification systématique de l'État-nation. L'État-nation, nous dit notamment Jean Monnet ou Robert Schuman, a été disqualifié par la première moitié du XXe siècle. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une source matricielle pour penser la construction européenne aujourd'hui. J'en arrive à ma dernière série de questions. Alors l'État amenait une question adjacente sur le fascisme, la nation une question adjacente sur le nazisme, la démocratie, elle, amène une question adjacente sur le bolchevisme stalinien. Et on sait que le discours que revendiquait le bolchevisme stalinien, c'était « contre le libéralisme bourgeois, nous allons mettre en œuvre un programme d'accomplissement de la démocratie réelle, de la démocratie véritable ». Et en URSS, précisément, on se revendiquait du label de la démocratie populaire. Si on sort précisément de ce discours, on constate qu'au contraire, l'histoire nous a montré à quel point la démocratie, pour être véritablement effective, supposait des fondements libéraux. Et c'est là, mais c'est pas vraiment une question que je vous adresse, c'est sur la manière de labelliser les origines du totalitarisme. Est-ce qu'il faudrait pas plutôt que de parler de crise du libéralisme ou de crise de la démocratie, essayer de travailler sur ce concept de démocratie libérale, qui, comme vous le dites dans la dernière partie de votre livre, se stabilise après 1945. Finalement, dans les origines du totalitarisme, est-ce qu'on doit pointer avant tout la démocratie, alors qu'elle n'était pas stabilisée, ou le libéralisme ? Or, là aussi, on a encore l'accolement de deux termes avec la démocratie libérale que la logique devrait séparer. Démocratie et libéralisme, ça n'a jamais été ensemble. Donc le totalitarisme, pris dans sa signification générale, est-ce qu'il est imputable à une crise de la démocratie, et là je ne vois pas véritablement en quoi, ou à une crise du libéralisme, ou si finalement on fait une synthèse des deux, est-ce qu'il n'y aurait pas là plutôt une crise de la démocratisation du libéralisme? Et tout à l'heure, vous avez précisément, partiellement répondu à cette question. Alors si je synthétise mes trois questions, finalement, elles se résument en une seule. On voit bien que dans les trois cas, il s'agit du statut du langage totalitaire. Est-ce qu'on doit totalement prendre au sérieux? Ça suppose d'assumer, c'est vrai, une position de surplomb philosophique, en disant les acteurs totalitaires, certes, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont tenu le discours qu'ils ont tenu, mais pour les analyser, est-ce qu'on est totalement pieds et poings liés par leur discours pour essayer de nommer le phénomène qu'on a en face de nous. Et l'auteur que je citerai volontiers pour terminer, précisément, c'est un auteur qui, sur le totalitarisme, est un peu oublié. C'est un linguiste allemand, Victor Klemperer, qui précisément a démontré en quoi, dans le nazisme, il y avait une dénaturation de tous les mots, que le nazisme n'avait inventé aucun mot, qu'il reprenait la langue allemande telle qu'elle existait avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, mais que les mots avaient été finalement empoisonnés en leur sein et que finalement, en sortant de ce totalitarisme, il faudrait, comme je le disais tout à l'heure, mener un travail de décontamination. Et j'ai l'impression que si on est sorti de la conjoncture totalitaire, comme vous le dites, peut-être qu'on n'est pas sorti de la décontamination sémantique des mots que nous ont légués le totalitarisme.
Sur ce dernier point, je dirais que je me sens l'âme tout à fait tranquille parce que précisément nous avons une discipline intellectuelle qui est le travail philosophique sur les concepts qui permet de prendre distance avec les représentations des acteurs. Mais il faut faire très attention, prendre ces distances avec les représentations des acteurs et leur discours ne peut en aucun cas signifier substituer un langage au leur. Il faut rendre compte de leur langage, et dans le cas des expériences totalitaires, il faut rendre compte d'une des propriétés très remarquables de ce langage, c'est sa capacité de séduction, sa capacité de mobilisation. Alors, il me semble y avoir derrière vos questions un présupposé qu'il faut peut-être interrogé. Il y aurait, le présupposé, c'est qu'il y aurait quelque part un sens pur de ces notions, État ou nation, qui serait fourni, en fait, par le discours juridique. Ça, je n'en suis pas sûr du tout. Moi, je ne parle pas du discours juridique sur l'État ou du discours juridique sur la nation, mais de la forme politique État-nation, qui a une réalité historique indépendante de des élaborations que les juristes et les philosophes en ont produites. C'est vous-même qui, me semble-t-il, vous enfermez dans un espace de discours là où il faut aller considérer les données historiques réelles. Les données historiques réelles, dans le cas, c'est le fait de l'État et le fait de la nation qui sont, dans une certaine mesure, indépendants des représentations qu'on s'en donne. Moi, je ne suis pas nominaliste. Je ne crois pas que tout ça, ce sont des étiquettes vides sur des réalités qui n'ont aucun rapport. Voilà. Alors, là, peut-être, si vous voulez, je dirais d'une manière générale, je vais revenir sur le cas du fascisme. L'État est le grand problème des régimes totalitaires. Pourquoi ? Parce que le léninisme se propose pour but la destruction de l'État, hein, et toutes les mesures de mise en place des structures soviétiques sont commandées au départ par la perspective du dépérissement de l'État. Et dans le cas du nazisme, il y a une rhétorique anti-étatiste constitutive du mouvement. Le problème, c'est le mouvement, justement. C'est pas le nazisme, il s'appelle NASDP, mais il ne veut pas être un parti, c'est un mouvement. Parce que, justement, parti, c'est figé, statique, immobilisant, alors qu'il s'agit de quelque chose qui est dans la suite, dans le développement organique, hein, de la dynamique du peuple. Et de la même façon, les nazis détestent le mot « État » parce qu'ils veulent le peuple. C'est le pouvoir peuple. C'est ça, l'objectif. Et l'État, c'est le fait de juristes réactionnaires, de fonctionnaires enfermés dans leur petit cadre légal. Il faut aller au-delà de tout ça. Mais en fait, ni l'un ni l'autre n'arrivent à la fidélité à leurs intentions. Ils n'arrivent. Les nazis ne dissolvent pas l'État. D'une certaine manière, ils le remettent en place. Et de la même manière, non seulement les bolcheviks vont abandonner en route leur perspective immédiate de dépérissement de l'État pour se convertir à l'État, mais ça va devenir le phénomène clé. Et il n'arrive dans les deux cas, c'est un travail en soi qu'on peut faire, de montrer le débat de ces mouvements avec l'État. Ce qui compte, c'est le parti, ils n'arrêtent pas de le répéter. Mais ils ont essayé, il y a eu des tentatives, il y a eu des réflexions, supprimer l'État. Et il n'y aurait plus que le parti, mais on ne peut pas. C'est une véritable expérience. Il y a un travail des juristes soviétiques dans les années 30 autour de cette question. Dans le moment, moi je ne lis pas le russe, donc je suis incapable de me plonger là-dedans, mais il y en a des tartines, au moment où ils préparent la constitution, ce qui va devenir la constitution stalinienne de 1936, la constitution la plus démocratique du monde, je vous le rappelle. C'est comme ça qu'elle nous est vendue. Et effectivement, est-ce que dans une démocratie, il y a place pour un État ? Ils disent non, puisque c'est le peuple. L'État, c'est séparé. C'est une machine qui fonctionne indépendamment de la volonté du peuple, dont il faudrait l'abolir. Donc il faudrait l'abolir. Mais on n'y arrive pas. Et pas pour une raison contingente. À mon avis, c'est précisément parce qu'ils sont, malgré eux, inscrits dans l'espace démocratique qu'ils veulent détruire, mais aussi accomplir, et que pour ce faire, ils ont besoin de l'État comme institution. Alors, c'est des institutions qui marchent très mal dans les deux cas, ça c'est clair, puisque d'abord, pour occuper une place importante dans l'État, il faut être membre du parti, et que d'autre part, les organes du parti n'arrêtent pas d'interférer avec le fonctionnement de l'État. Alors vous imaginez Alors là, c'est là qu'on arrive effectivement au chaos institutionnel. Et la vie quotidienne des organes de l'État, ou en Union soviétique, ou dans l'Allemagne nazie, c'était pas de tourpeau. Hein, je veux dire, parce que vous étiez dans un système d'interférence politique du haut, du bas, du côté, absolument indescriptible. Mais il y a toujours la structure de l'État. Et de même, la nation, bel et bien, je vais y revenir, est là, sous une forme particulière, jusque dans le nazisme. Le fascisme est-il un totalitarisme ? Ah, ça, c'est une question qui continue de faire débat, qui fera débat jusqu'à la fin des temps, parce que, en effet, tout peut se soutenir dans le cas. Le critère d'Hannah Arendt, entre nous, me paraît très discutable. Le critère implicite qui la guide, c'est la terreur. Staline et Hitler méritent la dignité, avec un grand D, de dictateurs totalitaires, parce qu'ils ont tué assez de gens. Le pauvre Mussolini, il joue en deuxième division, parce qu'il avait des restes d'humanité, où la situation historique l'a empêché de zigouiller autant qu'il aurait fallu pour mériter ce titre olympique. Bon. Je ne suis pas sûr qu'on puisse raisonner comme ça. C'est une question de formule du régime d'ambition politique. Moi, je pense qu'on peut définir le fascisme comme un totalitarisme autodidacte et modéré. Ça peut paraître bizarre, parce qu'effectivement, on vous dit, mais si vous êtes totalitaire, vous n'êtes pas modéré. Mais si, si, si. Je veux dire, d'abord, ils n'étaient pas tant que ça, hein, n'exagérons pas. La modération du dit Mussolini et de ses sbires, qui était très relative. Et puis, effectivement, ils ne pratiquaient pas la terreur de masse, mais ils ne s'embarrassaient pas beaucoup de la peau des opposants quand ils étaient franchement sur leur chemin. Ce n'étaient pas non plus des humanistes certifiés. Hein. Mais totalitarisme autodidacte, parce qu'il s'installe au pouvoir sans un programme. Et effectivement, le fascisme, c'est une expérience d'apprentissage sur le tas, où on commence d'ailleurs à l'intérieur d'un régime parlementaire trafiqué, truqué, mais avec des élections où l'opposition vote, où on se tape sur la gueule dans les rues, dans les meetings électoraux, etc. Et puis on fait une dictature, et puis on va au-delà. C'est-à-dire, c'est une escalade, et une escalade qui va être capitale pour les nazis. Parce que, évidemment, les nazis apprennent des fascistes italiens, et eux, ils arrivent après. La particularité de l'hitlérisme et du nazisme, c'est qu'il est le dernier des totalitarismes, et il travaille à partir des expériences des autres. Donc, il met d'emblée la barre beaucoup plus haut, parce que lui, il sait où il va. Parce qu'il n'a pas eu à essuyer les plâtres, alors que Mussolini, pendant 10 ans, hein, on peut dire, le régime fasciste est installé 10 ans après la prise de la marche sur Rome, en 32, le 10e anniversaire, là, ça y est, c'est fait. Et c'est un totalitarisme modéré, parce que, non seulement pour des critères humanitaires, mais parce qu'il est obligé de composer, c'est la situation historique, avec des institutions traditionnelles. Le roi d'Italie reste en place, et la structure classique, hein, de l'État italien, avec le rôle de l'aristocratie, l'armée échappe en grande partie au régime fasciste, elle essaye de défendre en tout cas son indépendance. Donc on a une... sans parler du contrepoids que constitue l'Église catholique, quand même, avec toutes les ambiguïtés de son rôle. Et là, il est hors de question. C'est d'ailleurs la chose, comme on sait bien, quand Hitler va aller en Italie rendre visite à Mussolini, il est effondré par le spectacle de toutes ces vieilles badernes dont il dit partout à son entourage, mais qu'est-ce qu'il attend pour les liquider ? Je veux dire, c'est quand même pas difficile. Il a tout ce qu'il faut. Ça lui paraît invraisemblable. Mais Mussolini a une appréciation plus saine du rapport de force. Mais ça n'empêche pas son projet, me semble-t-il, de s'inscrire dans la ligne totalitaire. Et on voit bien la démarcation. Hein, je crois que quand on le compare aux autres régimes autoritaires avec lesquels il voisine dans le paysage, je veux dire, c'est la question décisive du totalitarisme par rapport au régime autoritaire, hein, aux dictatures simples, c'est d'une part la mobilisation des masses, d'autre part l'idéologisation de la société. Je veux dire, Salazar, pour lui, tout son problème, c'est d'écarter la population de la politique. Et si les filles sont analphabètes, c'est encore mieux. Elles n'ont pas à s'occuper de tout ça, ça encombre l'esprit pour rien. Hein, il s'agit au contraire d'écarter les masses de la politique et de faire qu'elles s'occupent d'autre chose, ce qu'elles veulent. En gros, la religion, c'est très bien pour tout le monde, ça suffit amplement pour... Mais les régimes totalitaires, c'est pas ça. Hein. Les régimes totalitaires, c'est précisément l'encadrement généralisé de la population afin de politisation, c'est pas que la police... C'est qu'il faut descendre dans la rue quand le Duce fait un grand discours à la radio pour annoncer qu'on va se lancer à la conquête de l'Éthiopie, ou tout autre, il en faisait assez souvent, et montrer son enthousiasme. Nous ne faisons qu'un. Hein, c'est la formule de la rhétorique préférée de Mussolini quand il faisait ses grands discours sur les places publiques, c'était l'interpellation du public. Hein, c'est à qui l'Italie ? À nous. C'est ce « nous » qui est typiquement totalitaire, avec tout ce qu'il implique de formules de mobilisation et d'idéologisation, qui, dans le cas italien, a été poussée très, très loin. Hein, c'est, là aussi, il ne s'agit pas simplement d'adhérer de loin à un catéchisme politique, c'est de montrer que tout dans la société se rattache à l'idéologie distillée par le pouvoir et par le parti. Donc, de ce point de vue-là, la formule fasciste me paraît bel et bien se distinguer totalement des autres régimes autoritaires avec lesquels on l'apparente dans la notion devenue complètement vaseuse de fascisme, qui, elle, doit être bannie des études en fonction du critère que vous disiez. Au passage, c'est quoi ce fameux fascisme ? C'est ni plus ni moins la catégorie mise en avant par le Comintern dans sa lutte contre ces régimes dictatoriaux. S'il y a une catégorie, alors là, d'époque, est très douteuse, c'est celle de fascisme, qui d'ailleurs fait écran à la distinction entre le fascisme italien, ses dictatures autoritaires et le nazisme, qui est quelque chose de tout à fait autre. Alors là, l'une des raisons de la particularité du fascisme tient précisément à ce problème de l'État. Les Italiens n'ont pas d'État. Et la grande légitimation de Mussolini, c'est la construction de l'État italien, qui n'existe pas. On a fait l'unité nationale, mais il n'y a pas d'État. Et la grande fierté des fascistes, c'est la construction de l'État, parce que c'est une lacune énorme dans le paysage. En Allemagne, il est tout ce qu'il y a de construit. Il y en a un peu trop, et si on peut le pousser de côté, personne ne s'en plaint vraiment. Voilà. Et chacun sait que c'est resté proverbial, et ça reste aujourd'hui en Italie. Dans les masses italiennes, c'est une chose dont on ne parle pas volontiers. Non seulement c'est la célèbre formule du temps du Duce, les trains arrivaient à l'heure, mais d'une manière plus générale, il y avait un État. Il y en a, et après, il faut bien dire, après la disparition du régime fasciste, l'Italie est revenue à quelques problèmes en la matière. Il y a un État, mais il n'est pas très fonctionnel, c'est vrai. Et c'était l'ambition des fascistes de le faire. Alors l'État, c'est une institution impersonnelle. Donc elle est de plein fouet hostile au principe de la personnalisation et de l'idéologisation totalitaire. Mais en même temps, c'est une des contradictions du régime. Moi, je crois qu'il faut analyser tous ces régimes sous le signe de la contradiction. Où précisément, il s'agit pour tous ces régimes de faire cohabiter des contraires d'une manière ou d'une autre, c'est leur défi. Et c'est l'une des explications de cette gymnastique rhétorique à laquelle ils se livrent tous d'une façon ou d'une autre. Staline, sur la question de l'État, aura cette merveilleuse formule, c'est dans son grand discours sur la Constitution soviétique, que, en gros, l'État soviétique a dépassé la contradiction bourgeoise. Parce que il n'y a plus d'État, parce que l'État est devenu l'État du peuple tout entier. Donc voilà, il n'est plus une institution séparée. On a fait un pas vers la résolution de ce problème. On a rendu l'État au peuple.
Comme Kadhafi.
comme Kadhafi. Non, mais cette rhétorique a des suites, évidemment. Alors, je dirais de la même manière, si vous voulez, le problème de la nation, c'est pas simplement le principe juridique défendu par les constitutionnalistes. C'est une réalité politique qui fait couple d'ailleurs avec l'État. Moi, je ne parle pas d'État ou de nation, mais d'État-nation, en bonne rigueur. C'est ce qui complique les choses, mais en même temps contribue fortement à les éclaircir sur le fond. On a un fait politique et cette forme moderne, État-nation. Il y a une nation allemande. La particularité de cette nation allemande est de se représenter en tant que nation comme une nation inachevée qui ne peut trouver son accomplissement que dans l'empire de la nation allemande. Bon, c'est là aussi des contradictions dans les termes et des contradictions qui renvoient à une situation historique qu'on peut très bien expliquer et qui est efficace politiquement puisqu'elle va déterminer toute une orientation du régime vers la guerre, parce que précisément l'empire est le but de la nation. Alors, juridiquement, ça ne tient pas la route, mais on peut très bien comprendre dans les faits comment ça fonctionne. Effectivement, c'est la formule de ralliement qui explique la dynamique particulière du nazisme. Je dirais, alors j'en viens à votre dernière question. La question de la démocratie, vous avez en effet eu la bonne manière de présenter les choses. Démocratie libérale, il n'y a pas de notion plus banale, mais il faut bien voir que ce n'est pas une notion évidente, puisqu'elle associe deux termes qui, normalement, sont contradictoires. Qui dit démocratie dit tout le pouvoir au peuple, le pouvoir du peuple sur lui-même, du peuple. Du collectif, c'est l'autogouvernement collectif. Et libéral, c'est la priorité absolue des libertés individuelles. Ça ne se marie pas nécessairement très bien. Je vous rejoindrai tout à fait en disant que la crise du libéralisme, il faudrait l'appeler plus justement, c'est tout à fait vrai, crise de la démocratisation du libéralisme. Pourquoi ? Parce que, en même temps, le libéralisme, tel qu'il se déploie dans le XIXe siècle, au travers du régime représentatif, à un moment donné, devient la promesse de la réalisation de la démocratie. Alors, à un premier niveau, la réponse est simple. Tout le monde participe au processus représentatif. C'est le suffrage universel. Mais il y a beaucoup plus dans cette promesse. Grâce à la liberté de chacun, on va aboutir au gouvernement de tous. Mais ce n'est pas ce qui se passe, justement. C'est cette promesse démocratique qui est déçue. C'est en ce sens-là qu'on peut parler quand même d'une crise de la démocratie. C'est la crise de la promesse démocratique du libéralisme. Parce qu'en fait, avec ces libertés individuelles, on n'aboutit pas au gouvernement de l'ensemble, mais à, en fait, non pas un chaos institutionnel, mais un chaos social, à une dispersion généralisée des initiatives et à une incapacité du pouvoir d'encadrer cet ensemble et de le diriger effectivement. Donc tout le défi de l'histoire de la démocratie au XXe siècle a été d'injecter cette dimension démocratique contre la dispersion libérale, tout en conservant les libertés personnelles. En ce sens-là, on est bien dans l'histoire de la démocratie, parce que même s'il y a antinomie relative entre libertés individuelles et pouvoir du peuple, il est consubstantiel dans le déploiement des libertés personnelles de faire signe, il leur est consubstantiel de faire signe vers le pouvoir démocratique. Le développement du libéralisme le conduit vers la démocratie, n'arrive pas à s'arrêter en quelque sorte. Là, le lieu historique où ces tensions sont toujours à l'œuvre d'une manière spectaculaire étant aujourd'hui les États-Unis, où il y a une notion libérale de la démocratie qui prend toujours le dessus, mais en même temps une aspiration démocratique, nous le peuple américain, trahi en permanence par ses représentants, on voit bien que même un libéralisme radical contient une promesse démocratique qui, dans l'histoire européenne, a été le grand problème à la fois du libéralisme et de la démocratie. Cette alliance paradoxale de termes a fini tout de même par trouver un équilibre à peu près satisfaisant, dont je dirais, j'oserais dire, que la démocratie américaine ne l'a toujours pas trouvé, avec les effets assez chaotiques que nous pouvons observer.
Une des grandes originalités de cet ouvrage est de montrer comment la démocratie a été réinventée à partir de 1945. Et je cite Marcel Gauchet, le choc moral provoqué par la révélation de la barbarie nazie a masqué cette évidence. Non seulement la démocratie a triomphé des différents totalitarismes, mais elle a réinventé le régime de la liberté. Donc, en expliquant comment, par le contrôle de l'économie dans des pays dévastés et le rôle qu'elle a joué dans le plan de la relance de la croissance d'une part, la protection sociale dont Marcel Gauchet a déjà largement parlé et les réformes de la politique dont il a parlé aussi, nous sommes arrivés à un régime inédit, écrivez-vous, la pointe avancée de la métamorphose qui a fait passer la politique des hauteurs ordonnatrices aux profondeurs instituantes. Donc c'est l'invention d'un autre mode de structuration collective, en dehors de la religion, écrivez-vous, le régime enfin trouvé de la société de l'histoire. ce défi, semble-t-il, a été gagné. Comment se posait-il, en quels termes se posait-il ? Je cite à nouveau Marcel Gauchet. « Comment faire société sans conviction partagée, sans attache palpable entre les êtres, sans appareil de contrainte ostensible ?» La réponse semble avoir été trouvée, mais je poserai la question, à quel prix ? C'est-à-dire que l'appartenance lâche à une société centrée sur la consommation et l'illusion de la transparence n'est-elle pas la contrepartie de cette révolution de l'être ensemble qui nous a été proposée pendant ces années ? Et ce n'est pas simplement parce que dans mon jeune âge, j'ai critiqué, mais aussi c'est avec le recul aujourd'hui. Deuxième question, quelle est la place des nations entre l'état de régulation et d'anticipation et l'état social ? Et je dirais... Page 614, un passage qui me semble poser ces questions. L'appartenance telle que l'organise la nation d'inclusion est à l'opposé tant de la contrainte ancienne que de l'embrigadement moderne. Elle est aux antipodes en particulier de la participation militante recherchée par les idéocraties. Elle ne réclame pas la participation intellectuelle des acteurs, elle extériorise au contraire le lien qui les tient ensemble par rapport à la conscience qu'ils en ont, en lui conférant la consistance objective d'un englobement redistributif qui place l'existence du tout au service de la déliaison des parties. Les acteurs sont d'autant plus intégrés dans le collectif que celui-ci les dégage de toute allégeance envers des groupes particuliers au profit d'une appartenance générale qui n'a d'autre objet que de les soutenir dans leur indépendance. Alors, ma question pose sur cette démocratie. Comment concevoir une démocratie avec ce type d'appartenance et ce type d'individu qui est détaché, dégagé de toute allégeance au collectif ? Et n'est-ce pas là une des raisons des troubles que nous connaissons aujourd'hui ?
Si je puis dire, la réponse est dans la question.
Oui.
Oui. En effet, ce que nous avons inventé en la matière, nous ne savons pas le maîtriser. Et pour une partie, je ne pourrais pas réduire le phénomène à cela. Il est clair que la nouvelle crise de croissance de la démocratie dans laquelle nous enfonçons depuis les années 70, on peut dater très différemment la chose selon la perspective, sort pour une partie notable et le prix à payer, la rançon, l'effet de ce nouveau régime d'individualisation et de coexistence qui s'est élaboré entre 45 et 75. Pour eux, nous avons affaire à quelque chose comme une sorte de dérapage par radicalisation des effets de l'individualisation induite par l'état social et le nouveau cadre politique dans lequel nous nous sommes installés depuis lors. Mais il faut replacer ces choses dans une perspective longue. Si je puis dire, nous avons affaire aux pathologies conjoncturelles d'une révolution structurelle qui évidemment ne s'épuise pas dans ces pathologies et qui fait signe vers d'autres possibles. C'est pourquoi nous ne sommes pas condamnés à vivre indéfiniment sous le signe de cette espèce d'embardé d'individualisme paradoxal, puisque c'est un individualisme produit par la société qui veut ignorer la société. C'est la grande contradiction des démocraties d'aujourd'hui. Nous avons fabriqué, à partir de ces différentes figures de l'État et de nation dont nous parlions tout à l'heure, un type d'individu très particulier. C'est par exemple ce qui différencie totalement l'individualisme européen d'aujourd'hui de l'individualisme américain, qui est une tradition politique propre d'une nation de pionniers en construction par rapport d'immigration, conquête d'un territoire qui repousse la frontière, etc. Cet individualisme donc de la responsabilité individuelle dont on voit qu'il est profondément enraciné quand on mesure les réactions y compris du populo, le américain le plus démuni, hein, parlons pas des milliardaires qui veulent pas payer d'impôts, devant la réforme de santé Obama, qui transgresse en amenant des principes qui, à nous, Européens, nous semblent évidents. C'est pourquoi, évidemment, on ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe. Ces principes qui nous paraissent évidents ne le sont absolument pas pour les Américains, et puisqu'ils font bouger un point clé de la culture politique américaine, qui est celle de la responsabilité individuelle. Nous avons créé un individualisme jamais vu dans l'histoire, qu'on pourrait appeler polémiquement, à mon avis, son sens ne s'épuise pas là-dedans, mais c'est une manière de parler qui dit bien les choses, un individualisme de l'irresponsabilité individuelle, puisqu'il est le produit de la collectivité. On a affaire à un individu produit social, ignorant ce qu'il doit à la société dans laquelle il s'insère et dont il ne veut pas connaître. Par exemple, il ne veut pas payer d'impôts. Non. Il ne voit pas pourquoi il en paierait. Il n'y a pas de raison. Là, ça, c'est la contradiction béante qui est un produit, hein, qui est le résultat en partie de l'État social, de l'État de régulation, du type de lien politique que la démocratie a fabriqué sur 30 ans et à la faveur duquel elle s'est stabilisée. Mais ce n'est pas le dernier mot de l'histoire. Hein. C'est vraiment, en effet, une crise, comme il y en a eu d'autres par le passé, qui est la résultante d'un gain antérieur. Mais je crois qu'il faut, ce sur quoi il faut insister, si vous voulez, c'est sur la portée tout à fait extraordinaire de ce que nous avons connu dans ces transformations de l'après-1945 qui leur donnent une portée qui relève de la très grande histoire et pas simplement de réformes importantes, certes respectables, mais somme toute relevant d'une sorte de bricolage démocratique qui est l'image qu'on leur donne généralement. Ce qui s'est passé là, c'est la solution d'un problème qui, d'une certaine manière, hante la modernité depuis son point de départ et en tout cas à coup sûr depuis la Révolution française. C'est-à-dire depuis l'apparition d'un régime explicitement en rupture avec une autorité religieuse. Dans une autorité religieuse, l'ordre, c'est-à-dire, encore une fois, nous l'oublions sans cesse, mais il faut s'en rappeler, la formule selon laquelle la totalité de l'humanité, depuis que nous pouvons l'appeler telle, a vécu. Ce n'est pas des petites choses. L'ordre collectif est donné. L'ordre collectif est donné, je regrette, la cité grecque, c'est encore ça. Après, c'est comment on s'arrange à l'intérieur de cet ordre collectif donné. Il y a une marge d'initiative des individus, mais le collectif en tant que tel est sacré. La rupture qui s'introduit avec la politique moderne et dont la Révolution française est signal éclatant, même si ce n'est pas le vrai premier mot, c'est là que les gens prennent conscience de ce qui se passe, c'est que nous allons délibérer l'ordre que nous bâtissons entre nous par la raison. Et il sera basé sur la liberté des individus. C'est une transgression majeure à l'échelle de l'histoire de ce qui paraissait la donnée inévitable de la condition collective, à savoir la donation de la loi de l'être ensemble. Et depuis ce moment, il y a une sorte d'angoisse qui habite les sociétés modernes, qui est la nécessité de recourir à un principe au moins équivalent pour faire lien, parce que ces sociétés sont menacées de dissolution. Quelqu'un chez qui cette interrogation est formulée avec une clarté admirable, c'est Durkheim encore. Si on ne construit pas un équivalent de ce qui était l'encadrement collectif des sociétés religieuses, ça ne peut pas marcher, ça ne tiendra pas. Il faut trouver... Alors, c'est un esprit, tout ce qu'il y a de républicain, séculier, immanent, il ne cherche pas le recours à une transcendance. Mais il faut bâtir un équivalent séculier de ce qui était cet ordre par en haut donnant des principes supérieurs qui contraignent les individus. En l'occurrence, c'est tout simplement l'adoration de la société. La société est plus que ses parties, son ensemble s'impose aux individus. Ce n'est pas une sacralité au sens religieux du terme, mais ça en donne un équivalent terrestre. Eh bien, ce que nos sociétés ont réussi à faire après 1945, sans s'en rendre compte, et encore une fois, par des chemins tortueux et en répondant à des questions beaucoup plus immédiates, mais c'est l'effet d'ensemble ici qui importe, c'est à trouver un mode de cohésion proprement moderne qui nous délivre de cette contrainte de l'encadrement collectif et de l'ordre par en haut. Et cela est lié aux transformations du politique. À la structuration religieuse du collectif, nous avons réussi à trouver la formule d'une structuration politique du collectif, qui est donc quelque chose d'absolument inédit historiquement et qui n'existe dans sa forme développée à proprement parler qu'en Europe. C'est l'exception européenne, une exception qui a eu un effet absolument étonnant, c'est la rapidité avec laquelle précisément la croyance religieuse a cessé de compter dans la vie collective. Depuis les années 1970, quand ce phénomène est devenu perceptible, il était en route bien avant, mais là, il acquiert une sorte d'évidence photographique, on a à la fois un ralliement généralisé à la démocratie, une individualisation radicale du lien social et un écroulement des adhésions religieuses. Écroulement des adhésions religieuses qui encore n'empêche pas les foies personnelles, là aussi, une individualisation du religieux que tous les sociologues du domaine ont abondamment décrite. Ce n'est pas la peine de s'y étendre. Parce que l'une des raisons clés qui maintenait la religion, pour des motifs qui n'avaient pas grand-chose à croire envers la révélation, c'était la conviction non thématisée comme telle par les individus, que c'était ça qui tenait le collectif ensemble. Que la communauté paroissiale, le rassemblement des esprits par une foi commune, il n'y avait que ça de vrai. Et qu'il fallait tenir à cette forme de lien parce qu'il était ce qu'il y avait de plus solide pour faire société. Cette dimension-là du religieux s'est volatilisée. Et il ne reste plus dans le champ religieux que les vrais croyants, qui ont toujours été très minoritaires, en fait. Les autres, ils pratiquaient une religion sociale, ou simplement conformiste, ou en fait construite sur cette religion du collectif, sur la religion de la communauté et des rites qui la soudent. Maintenant, nous avons affaire à une religion, pour la première fois, pas pour la première fois depuis le début du christianisme, mais comme au début du christianisme, de vrais chrétiens. Ils croient, ceux qui croient vraiment, ceux qui pensent qu'il y va de leur salut personnel, et pas simplement du bon fonctionnement de la collectivité. Ça fait moins de monde, mais attention, ils y croient vraiment. Et ça, c'est dans un monde où personne ne croit à grand-chose, croire vraiment à quelque chose, ça vous mène très loin. Donc, c'est un phénomène qu'il faut considérer avec beaucoup d'attention, parce qu'il a de la ressource, qui nous surprendra à coup sûr. Mais c'est une nouvelle... D'où, par parenthèse, ce discours dont Alain Touraine aujourd'hui est le principal porteur, mais qui diffuse dans tout le champ des sciences sociales. Il n'y a plus de société. Si c'était vrai, si j'ose dire, ça mériterait un sérieux examen. Évidemment, c'est faux. Mais ce que veut dire ce discours, qui n'est pas du tout absurde, contrairement à son apparence, c'est que la société ne se présente plus sur le mode où elle se présentait. C'était quoi la société dans ses expressions élémentaires, le social ? C'était la contrainte et le contrôle. Le contrôle social, la contrainte. On était dans le social quand on était dans le l'impératif. Vous ne choisissez pas, vous devez endosser un rôle, vous devez adopter des codes, vous devez vous conduire de telle manière, vous devez respecter des règles. Voilà, c'était ça, la société. Les sociologues, qui ne peuvent penser le social que sur ce mode, pensent qu'elle a disparu, puisqu'elle se manifeste autrement. Évidemment, là, il y a une légère erreur de raisonnement. C'est pas parce qu'une chose se métamorphose dans son mode de manifestation qu'elle n'existe plus. Mais ce discours signale vraiment un changement. Sauf que, bien entendu, la société existe plus que jamais, et en fonction d'un critère très simple, c'est qu'aucun de nous ne pourrait survivre, disons, un mois en dehors d'une société. Faisons une expérience, il y a des volontaires.
Non, il n'y a qu'à avoir du Japon.
Installons une personne parfaitement post-modernisée, comme on dit, sur une île déserte, eh bien, elle ne refera pas Robinson Crusoe. Ça, c'est un monde disparu. Or, sans mon téléphone portable, je ne vis plus. Michel Serres, dans un petit bouquin là, qui vient de paraître, a cette formule qui dit la même chose, en fait. Hein. Il dit « le connectif a remplacé le collectif ». Mais est-ce que du connectif est possible, s'il n'y avait pas de collectif en dessous? Ça paraît douteux. C'est là où on voit les limites de la rhétorique, si brillante soit-elle. Il n'y a plus que jamais société, sauf que la société est effectivement devenue, pour de bon, ce qu'elle n'a jamais été, une société d'individus reposant, on ne voit que ça, reposant sur une infrastructure politique. De la même manière, du coup, le politique a l'air d'avoir disparu. Parce qu'effectivement, il ne commande plus. Le politique, c'était simple, c'était essentiellement la guerre et tous les impératifs collectifs découlant de la guerre, à commencer par la perception des impôts. À travers les siècles, on a payé des impôts pour faire la guerre. Ça avait au moins une justification sensible. Aujourd'hui, effectivement, on ne sait plus pourquoi on paye des impôts, d'où le fait que l'individu contemporain a une propension antifiscale marquée. Le politique, c'est plus ça. Mais il n'a plus que jamais besoin d'impôts. Hein, parce que plus il disparaît, plus il coûte cher. Vous le remarquerez par parenthèse. La chose tout à fait remarquable de cette expérience anglo-américaine Thatcher-Reagan, avec la volonté radicale de cantonner l'État dans ses fonctions minimales, n'a jamais abouti. Parce que personne n'a réussi, en dépit d'efforts caractérisés, à faire baisser la part financière de l'État en dessous de 30% du produit intérieur brut. Alors qu'on l'estime, en gros, pour les États-Unis, avant 1914, en gros, il était de 6 ou 7%. En Europe, autour de 12-13%. Il y a bien là une indication. Je veux dire, c'est pas simplement parce que les fonctionnaires enquistés dans leur routine continuent de nous coûter trop cher, c'est bien cool. Il y a des raisons fonctionnelles, à mon sens, assez importantes. L'infrastructure de nos sociétés est politique. Elle est politique et juridique, parce que l'État, aujourd'hui, c'est plus le commandement de style militaire, c'est le droit. C'est la production des règles, avec là aussi toutes les pathologies qui peuvent se greffer sur ce phénomène. Hein. Le comblement des vides juridiques au quotidien, ce n'est pas toujours une activité rationnelle et sympathique pour ceux qui ont à la subir, mais qui signifie quelque chose. Nous vivons dans un mode de cohésion inédit, où ça ne prend plus la forme d'une appartenance obligée ni d'un commandement subi, mais d'une inclusion dans un espace de socialisation garanti par des règles de droit qui sont la formule de l'État-nation contemporain. Et un État-nation qui a changé de nature, et je crois que c'est le point clé dont il faut analyser la suite. Tout le problème politique qui nous est posé à partir de là, qui sera le problème politique de la période qui s'ouvre, parce que je pense que précisément nous sommes au moment du signal de ce que le beau temps de cette méconnaissance est passé en raison, tout simplement, de la raréfaction des ressources collectives qui font sentir à quel point on a besoin de cet État-nation dont nous serions prétendument sortis. Et la crise dans laquelle nous sommes maintenant plongés, et pour un bon moment, c'est précisément la crise de cette reprise de conscience du cadre politique dans lequel nous vivons et du programme que ça dessine au-delà, la réconciliation ou la réarticulation de l'individuel et du collectif, qui est le programme obligatoire qui est devant nos sociétés. Parce que effectivement, fabriquer une société de la connaissance avec des individus inéducables, ça ne paraît pas une solution d'avenir.
Merci.